La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Je vous invite à lire Philippiens 3, 13, chapitre 3, 13 à 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
Merci Astrid pour la lecture de ce passage. Et bien sûr, vous avez reconnu Gabriel Goléat qui est parmi nous ce matin, qui est maintenant secrétaire général de l'UFB. Et c'est lui qui nous partagera le pain ce matin. Et pour ceux qui viennent d'arriver, c'est lui aussi qui sera avec nous cet après-midi, donc à 15h30. Donc soyez à ce rendez-vous cet après-midi. Je lui laisse la parole.
Merci Laurent. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ce matin ici, effectivement, pour le culte, et puis par la grâce de Dieu, l'après-midi, si vous voulez bien, pour un séminaire, un débat, un échange, à partir de 15h30. Nous avons l'habitude, quand nous passons dans les églises, de transmettre les salutations de toute l'équipe de l'Union franco-belge. Alors, pour Damarie Lelis, ma tâche est beaucoup plus simple, parce que l'équipe franco-belge est ici. J'aperçois, accompagné par leur famille, respectivement, le président de l'Union, le trésorier. Vous avez eu tout à l'heure la responsable liturgie, mais aussi assistant de direction à l'Union. Je suis très heureux de voir Dina avec nous. Et puis, sûrement, il y a d'autres personnes qui collaborent, qui travaillent à l'Union. Mais vous avez effectivement ces salutations, car nous voulons rester une grande famille. Et ça fait toujours plaisir de savoir que nous pouvons nous appuyer les uns sur les autres dans notre marche commune. D'abord pour l'Église, pour tout ce qui est concret, tout ce qui est visible, mais surtout pour tout ce qui est spirituel, pour tout ce qui nous relie au salut éternel. Ce matin, je vous invite à réfléchir ensemble sur l'essentiel. Bien sûr, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, l'essentiel. Mais ce matin, je vous invite à nous poser la question sur qu'est-ce qui fait l'essentiel ou l'élément unique de notre engagement avec le Seigneur. J'aime beaucoup les grandes histoires, les biographies. Alors bien sûr, il y a ceux qui sont très connus et puis il y a ceux qui sont des anonymes. Je pense par exemple, pour faire voyager dans l'espace quelqu'un comme Armstrong, tout le monde se souvient d'un monsieur, d'un nom. Eh bien, pour que ça puisse se réaliser, il a fallu le travail d'une bonne équipe, 20 000 personnes. Alors, je ne vous donnerai pas le nom de tous ces participants à la mission, parce qu'on ne se souvient pas. Mais l'exploit d'une personne ou de quelques personnes, c'est aussi le résultat des anonymes que nous ne connaissons pas. Et à chaque fois, il faut s'interroger sur qui est derrière, quelles sont les personnes qui font en sorte que cet exploit puisse être réalisé. Et puis, il y a des noms sonores, des noms que nous aimons, des noms que nous connaissons. Et parfois, quand on lit leur biographie, nous sommes surpris de constater que ces personnes ont eu des grandes difficultés, mais on ne retiendra pas. On retiendra uniquement ce qui est positif, ce qui est beau à la fin. Par exemple, le 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln, qui se souvient qu'en fait, il a eu une vie extrêmement terrible. Il faut se rappeler l'histoire, mais c'est quelqu'un qui est considéré comme un des plus grands présidents des États-Unis. Mais quand on lit sa vie, on constate que c'est quelqu'un qui est né dans la pauvreté, la plus totale. C'est quelqu'un qui a eu de deux faits toute sa vie. Par exemple, il a perdu 8 fois les élections dans la Chambre, au Congrès, etc. 8 fois. C'est quelqu'un qui, 2 fois, il a fait faillite dans les affaires. Il a voulu se marier et lorsqu'il était sur le point de se marier, sa fiancée décède. On peut continuer comme ça, il fait une dépression totale. Et pourtant, on retient Abraham Lincoln comme étant une figure emblématique, quelqu'un qui représente une institution, l'histoire. quelqu'un qui a persévéré, qui a voulu garder l'essentiel, coûte que coûte. Certains peuvent appeler cela ambition, certains peuvent se dire qu'il est têtu, certains pourront constater qu'en fait ça ne vaut pas la peine, il faut renoncer. Mais ce que j'aime bien chez ces personnes, c'est la détermination de garder l'objectif, à tout prix. Ça me rappelle, si vous voulez, quelqu'un de plus proche de nous dans la Bible, l'apôtre Paul, le texte qui a été lu tout à l'heure, Philippiens chapitre 3. Versets 13 et 14, nous le reprenons si vous voulez bien. Philippiens, il dit, je ne pense pas avoir saisi. Donc, pour lui, c'est dynamique, c'est en continu. Mais je ne fais qu'une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. J'imagine mal l'apôtre Paul être un homme mystique dans le sens passif, dans le sens sans engagement, quelqu'un qui prie toute la journée, quelqu'un qui ne fait rien. C'est pas ça la vie de l'apôtre Paul. Quand il dit « je ne fais qu'une chose », il faut se rappeler des milliers de kilomètres qu'il a parcourus pour prêcher l'Évangile. Il faut se rappeler les nombreux voyages, dont 3, respectivement 4, sont mentionnés dans les Écritures. Il faut se rappeler les rencontres qu'il a eues, les difficultés qu'il a rencontrées. Quand il dit « je ne fais qu'une chose », ce n'est pas pour dire que, en fait, je ne fais rien que ça. En fait, qu'une chose, c'est dans tous les domaines de sa vie. Toute sa vie, c'est une chose. Aller vers l'avant. Garder le cap. Ce qui parfois nous pose problème parce que nous sommes concentrés sur différents sujets. Quand nous sommes à l'école, nous voulons terminer l'école pour avoir un diplôme. Quand nous n'avons pas de travail, nous voulons absolument obtenir un travail. Quand nous ne sommes pas mariés, nous voulons un jour se marier. Quand nous sommes dans des projets pour déménager, pour changer d'habitation, on cherche le bon appartement, la bonne adresse, et nous sommes motivés pour faire ça. Et puis, les sujets changent. Parfois, les plus doués parmi nous font 2 ou 3 choses à la fois. Il paraît que les femmes sont plus douées pour ça. Nous avons qu'un seul tiroir, nous les hommes. À la fois, les femmes, paraît-il, elles peuvent ouvrir plusieurs tiroirs. Penser aux enfants, préparer le repas, penser ce qui se passe demain. Enfin, il y a des séminaires dans ce domaine qui nous rappellent les différences entre nous. Et puis, il y a des personnes qui se concentrent uniquement sur une monotâche, une seule mission, un seul travail. Dès que c'est fini, on passe à autre chose. L'apôtre Paul dit en fait, moi je me concentre sur le but, et on voit derrière lui tout un travail qui est fait, mais le but reste. Et c'est ça qui est intéressant. Peu importe la nature de notre travail, peu importe les difficultés que nous avons parfois, oui, ça arrive, peu importe les limites, les fragilités auxquelles nous sommes soumis, le but reste. Et l'apôtre Paul dit, voilà, j'oublie, je garde le cap. C'est encourageant. On retient l'essentiel. On voit le même fil conducteur, la même idée, à savoir, peu importe les détails, peu importe ce qui est autour, mais il faut garder le cap, aussi dans l'enseignement de Jésus. Alors, comme vous savez, Jésus était excellent en ce qui concerne la pédagogie, la manière dont il enseignait, et notamment dans les paraboles. Alors, les paraboles, c'est un grand sujet. Personnellement, je suis passionné par les paraboles. Tout simplement parce qu'avec des mots simples, avec des choses de la vie, de tous les jours, il faut regarder le ciel, il faut regarder la mer, il faut regarder un homme, les champs. Eh bien, vous retirez et vous gardez pour vous un enseignement extraordinaire. Bien sûr, les paraboles, dans l'exégèse, dans la recherche, ça a posé quelques difficultés parce que comment interpréter? Mais interpréter bien. Il fut un temps où les paraboles, notamment dans la période du Moyen-Âge, étaient plutôt interprétées comme des allégories. C'est-à-dire que chaque élément, chaque détail de la parabole devait avoir un correspondant dans la vie de tous les jours ou sur le plan spirituel pour le salut. C'était, on va dire, plus vous étiez plein d'imagination, plus vous aviez d'enseignement. Ce n'est pas ironique, mais c'était le cas avec Xavier d'enseignement. Ce n'est pas ironique, mais c'était le cas avec beaucoup de chercheurs qui ont rempli des commentaires Et quand on lit, on se rend compte que, et on se pose la question, mais est-ce que c'est ça ce que Jésus a voulu dire? Parce que parfois, nous, avec notre imagination beaucoup plus raisonnable, on ne voit pas tous ces enseignements. Jusqu'au jour où un certain Adolf Züllicher, un commentateur allemand, il a vécu au début du 19e siècle, il est mort avant la Deuxième Guerre mondiale, il a dit « Halt, stop !» Il ne faut pas chercher à tout prix à avoir des correspondants entre un détail et aussi la vie spirituelle de nos jours, un enseignement moral, spirituel, à tout prix. Au point que chaque élément, chaque information de la parabole soit avoir un ancrage ou un élément dans la réalité. Parce que ce n'est pas ça l'intention de Jésus. Et là, il formule quelque chose de très simple. Il dit, et ça a été suivi par d'autres commentateurs après, il dit, en fait, chaque parabole que Jésus a prononcée, c'est pour dire, il ne faut pas chercher les détails, il ne faut pas s'arrêter sur les détails, il faut retenir l'essentiel. Quelle est la pointe de la parabole? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Prenons un exemple rapidement, avant de nous arrêter sur deux ou trois paraboles, après, quand Jésus parle avec ceux qui sont autour de lui, on lui pose la question, mais qui est mon prochain? Et là, Jésus commence à raconter la parabole du Samaritain, vous vous souvenez? Qui est mon prochain? C'était ça la question. Ce n'était pas de savoir si le Samaritain représentait telle catégorie, si le Lévite représentait telle catégorie. On peut s'y perdre. Ce qui est important, c'est de retenir qui est mon prochain. Toute la parabole va être mise en œuvre pour servir à cet objectif. Ce matin, je vous invite à prendre, par exemple, la parabole du trésor et de la perle dans le chapitre 13 de Matthieu. Alors, comme vous le savez, chapitre 13 dans l'Évangile selon Matthieu, c'est un chapitre rempli des paraboles. C'est le chapitre peut-être un des plus beaux concernant les paraboles. Et souvent, nous voyons présentées dans les Évangiles les paraboles par deux. Là aussi, il y a un petit secret, si vous voulez, c'est un peu comme comme dans la législation de l'Ancien Testament, où pour avoir un procès, il fallait avoir au moins deux témoins, avoir deux appuis. Quand vous faites juste une phrase, mais pas une deuxième, éventuellement une troisième, ça tient, mais ça tient pas longtemps. Donc pour appuyer, pour renforcer l'enseignement, Jésus se sert de cette méthode qui existe dans la pensée de ses auditeurs. Il apporte la preuve par deux. Pas seulement une parabole, mais une deuxième, qui va dans le même sens. Matthieu chapitre 13, verset 44, nous lisons. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a acheté, tout ce qu'il a, et il va acheter ce champ. Ça pose quelques difficultés, cette parabole. Imaginez la scène, un journalier, un homme qui travaille chaque jour, il cherche, et il arrive chez un patron. Et le patron lui dit, va travailler le champ. Et dans son travail, il trouve un trésor. Quelle aurait été, normalement, la première réaction de quelqu'un qui trouve un trésor? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Bien sûr que dans toutes les sociétés, c'est plus ou moins la même loi. La loi qui dit tout ce qui appartient à un champ appartient au propriétaire du champ. Lui ne signale pas la découverte. Il ne dit rien. Il repart. Il va chez lui. Il va faire en sorte d'obtenir beaucoup d'argent. Et le lendemain, il revient, non pas pour travailler, mais pour acheter le champ. Ça ne vous pose pas de problème moral ? Éthique. Dans les affaires, c'est un peu louche. Hein? Je dis souvent, c'est comme un peu nos enfants qui trouvent une pièce dans la maison. Papa, j'ai trouvé une pièce. Où? Dans le couloir. Il est à moi. Oui, mais c'est notre maison. Et le papa il dit, oui, c'est ta pièce, oui, c'est pour toi. Mais on sait très bien que ça ne lui appartient pas. Et là, l'ouvrier, ben, il l'a trouvé. Il a trouvé, il fait tout, il l'achète. Et aucun de ses auditeurs ne se sont pas scandalisés par cette parabole. Jésus continue avec la deuxième qui va dans le même sens. appuyer la notion de faire tout, garder l'essentiel. Cette fois-ci, le verset 45 et 46, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Voilà l'enseignement. On oublie les détails techniques, on oublie tout ce qui pourrait être à la limite sur le plan déontologique. Voilà le mot très compliqué. On a l'habitude d'utiliser des mots compliqués parfois. Éthique. Mais non, c'est l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est il a tout fait. Oui, mais dans un domaine qui n'est pas correct. Ces auditeurs ne sont pas scandalisés. Ils ont retenu l'essentiel. Jésus prend cet exemple pour dire tout faire. Même si le domaine dans lequel il puise l'exemple n'est pas bon. Même si la comparaison n'est pas du domaine éthique, moral. Nous voyons ça un peu plus avec une autre parabole, où là, ce que j'appelle, nous aurons affaire à une parabole de scandale. Elle est scandaleuse, la parabole, parce qu'effectivement, si on la sort du contexte, et si on ne la lit pas dans cette idée-là, on peut tirer des conclusions vraiment avec de difficultés pour la vie de tous les jours. Découvrons ensemble ou redécouvrons cette parabole qui se trouve dans l'évangile selon Luc, cette fois-ci, au chapitre 16. Là, il est question d'un manager, d'un intendant infidèle, et regardez ce qu'il fait. Aujourd'hui, on appelle ça des magouilles, des mauvaises affaires, quelque chose de pas honnête. Et pourtant, Jésus le cite. Et pas simplement, et j'anticipe un peu, nous allons lire le texte, pas simplement Jésus le cite, mais il le donne un exemple. Et c'est ça qui fait de cette parabole quelque chose de scandaleux. Scandaleux parce que cette parabole provoque. Elle dit... Attention, parce que cette parabole provoque. Elle dit, attention, prenez la pointe, prenez l'enseignement qu'il faut. Ne vous arrêtez pas dans les détails qui pourraient vous amener à d'autres conclusions. Voilà la parabole. Il y avait un homme riche, qui avait un intendant, un manager. Et celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entendis dire de toi ? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'intendance ? Piocher la terre ? Je n'en ai pas la force. Piocher la terre ? Je n'en ai pas la force. » Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Je sais ce que je ferai pour qu'ils me reçoivent dans leur maison quand je serai relevé de mon intendance. Alors, il fit appeler chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 mesures d'huile, » répondit celui-ci. Il lui dit, prends ton ardoise, prends ton billet, ton livre de compte, assieds-toi vite et écris. 50. Il dit ensuite à un autre, et toi combien tu dois ? Moi je dois 100 mesures de blé. Il lui dit, prends le livre de compte, le fichier Excel on dirait aujourd'hui, et modifie, et mets 80. À ce stade de la parabole, je pense que Jésus aurait dû avoir plein de questions, de regards qui interpellent. Mais Seigneur, Maître, qu'est-ce que tu nous enseignes ? On appelle ça comment aujourd'hui ? Faux et usage de faux. Hein? Qu'est-ce que tu nous enseignes ? Mais attendez, là nous sommes sur un plan spirituel. On attend de la part d'un maître. Et je vous rappelle qu'à l'époque, dans le judaïsme, la qualité ou le rôle d'un maître, docteur de la loi, c'était quelqu'un qui connaissait très bien la Torah, quelqu'un qui connaissait très bien les textes, c'est quelqu'un qui, pouvait faire face à un débat sur le plan de la théologie, des doctrines. On se souvient qu'il y avait plusieurs écoles, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui tenait la route avec des arguments qui étaient fondés, enracinés sur les 10 commandements, dont un qui dit clairement ne pas voler. Eh bien, ce maître-là, le nouveau maître, parce qu'effectivement, il se présente comme le nouveau Moïse, qui apparaît devant la nation et qui interroge, qui fait réfléchir, parce que son enseignement est à part, mais quand même, au point de dire, prenez votre stylo et écrivez autre chose. Faites des modifications. Mentez. Faites autre chose, ce qu'il faut laisser comme écriture. Eh bien, à ce stade de la parabole, personne n'interpelle Jésus. Et c'est d'autant plus fort parce qu'on sait qu'à chaque fois, il y avait dans le public de Jésus des personnes qui étaient interpellées. Vous souvenez, dans d'autres contextes, Jésus était mis à l'épreuve. On venait exprès pour le piéger. L'histoire des impôts, par exemple. Est-ce que nous devons donner impôt ou pas? Enfin, ils avaient la réponse. Et Jésus leur répond à leur façon, pour eux, et d'une façon, on va dire, irrévocable. Là, il n'y a pas ce débat, il n'y a pas cette interrogation. Ce qu'on a compris, en fait. Et Jésus continue, et c'est là où c'est fort. Jésus continue en disant, au-delà du dialogue, au-delà de la pensée qui est reflétée ici, de cet entendant, Jésus fait un commentaire sur ce que le maître va dire. Le maître loua l'entendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent. Et il ajoute, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Voilà l'enseignement. En fait, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il prend un exemple qui est mauvais, vraiment habile, intelligent, mais dans le domaine immoral, pour dire qu'il a tout fait avec ses astuces, avec ses combines, mais il s'est bien débrouillé. Eh bien, la même énergie, la même décision, la même détermination, vous devrez l'avoir vous aussi dans un autre domaine pour les bonnes choses. Et là, je pense que les enfants de lumière ont beaucoup de choses à apprendre des enfants de ce monde. Car il existe autour de nous des personnes qui ont une détermination extraordinaire. Des personnes qui sont tellement déterminés pour obtenir quelque chose, même si l'objet ou ce qu'ils souhaitent obtenir n'est pas toujours louable, mais ils ont une persévérance, une volonté pour y arriver. Et c'est cette détermination que Jésus loue à travers cette parabole. D'où l'intérêt de cette parabole. Ne pas s'arrêter sur le côté moral, sur ce qui ne va pas, parce qu'effectivement, beaucoup de choses ne vont pas dans ces paraboles. Mais c'est de garder l'essentiel. One point. Le climax, le point culminant. Tout pour le salut. Tout pour être sauvé. Si les enfants de lumière pouvaient avoir la même détermination pour les bonnes choses, pour le ciel, coûte que coûte. Nous sommes tous aussi, dans notre course à nous, dans notre cheminement, amenés à faire des choix. Effectivement, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Le monde dans lequel nous vivons ne nous encourage pas toujours à rester fidèles à Dieu. Au contraire, il essaie de nous détourner. Mais il est important de garder le cap. Comme disait l'apôtre Paul, je ne fais qu'une chose, je cours. Avez-vous vu des courses sportives? Comment les coureurs font quand ils sont vraiment presque coude à coude, épaule contre épaule? Rarement ils retournent la tête pour savoir ce qui se passe. Jamais. C'est impossible. Sinon ils vont trébucher, ils vont tomber. Ils ne le font pas. Le seul objectif, c'est ce ruban-là qu'il faut traverser, qu'il faut pousser avec tout leur poids, parce qu'ils veulent arriver, terminer la course. Nous voulons nous aussi rester fidèle au Seigneur. Avoir cet objectif, cette volonté de rester fidèle au Seigneur. Qu'il s'agisse de nos vies personnelles, de nos vies familiales ou de nos vies d'église, de nos responsabilités dans la société, nous voulons avoir un seul objectif, rester fidèle au Seigneur. Qu'il puisse nous aider à garder cet élément essentiel dans notre vie. Qu'au-delà de nos difficultés, de nos parenthèses, de nos fragilités, comme je disais tout à l'heure, qu'au-delà de ce qui pourrait nous détourner comme motivation, comme élan, que nous soyons toujours motivés par un seul objectif, le salut en Jésus-Christ. Nous avons besoin de ça. Nous voulons rester fidèles à Jésus, fidèles à sa mission, par sa grâce. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.